Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Tati Mampoukou. Okapi.
Nous voici dans la seconde partie du magazine Okapi Service de Radio Okapi. Quels sont les préalables à réunir pour réussir à la transition écologique dans les domaines des transports et voies de communication en République démocratique du Congo? Nous en parlons avec le professeur Jean de Deminengou. Nous rappelons qu'il est le coordonnateur adjoint de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable à TED. Il est ici avec nous au studio. Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous.
Bonjour Tati, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi, la radio de la paix.
Vous allez m'excuser un peu de la qualité de la voix parce que je suis en train de sortir de la grippe saisonnière. Oui, on est en dans la partie ouest de la République démocratique du Congo. Merci. Et si ce sujet vous intéresse, chers auditeurs, auditrices et internautes, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous. Nous nous ferons le plaisir de vous rappeler pour intervenir en direct par SMS, envoyez vos commentaires, témoignages, suggestions et propositions au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook du magazine Okapi Service. Et nous allons lire par exemple les commentaires de Blaise Saïdi Atoubou qui nous a écrit depuis la ville de Kisangani. Il nous dit ceci, le développement durable est l'un des grands défis mondiaux du 21e siècle et plusieurs solutions sont envisagées pour atteindre les ODD tels que définis par l'ONU à l'horizon 2030. Pour le cas de la RDC, malgré la mise en place de l'ITED, les actions concrètes tardent à être matérialisées. On ne sait pas si cette agence est réellement opérationnelle sur le terrain. Nous attendons également vos commentaires dans le courriel de nommé service@radiocapi.net. Tati Mampoukou, c'est moi qui anime. Et qu'on donne ces rendez-vous, Élise Kavir est à la réalisation, Jean-Marc Matouagui s'occupe de la supervision et Debs Evita est à la prise de son. Excellente condition d'écoute de ces rendez-vous du magazine de Fête Société de Radio Okapi.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Quels sont les préalables qu'il faut mobiliser, qu'il faut réunir pour atteindre les stades du développement dans le secteur du transport et voies de communication en République démocratique du Congo? Nous débattons de ces sujets au cours de ces rendez-vous du magazine Okapi Service avec notre invité, M. Jean-Didier Minengou. Nous rappelons qu'il est le coordonnateur adjoint de l'Agence nationale
congolaise.
De l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, ACTED en sigle. Bonjour et bienvenue. D'entrée de jeu, dites-nous, c'est depuis 2019 que l'agence existe. La transition écologique, là, il nous reste, selon les objectifs, les ODD, il nous reste presque 4,5. Au niveau de la réalisation, d'ailleurs, c'est la première question de l'auditeur de Kisangani qui nous a laissé ses commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Parlez-nous un peu de l'esprit de la création de l'agence, ses branches d'activité et dans le domaine des transports. Parce que là, on a l'impression que, oui, il y a une agence qui existe, mais sur le terrain, les choses se dégradent. On a l'impression qu'on est retombé aux années 95-96.
Même à l'antiquité, même. Oui, merci beaucoup d'abord pour l'invitation, Tati. Je dois dire que, comme vous les connaissez très bien, que le visage que représente un milieu de vie, c'est le résultat d'un long processus de transformation dans la longue durée historique. Ce qui veut dire qu'une société qui n'arrive pas à réaliser des transformations par rapport à l'évolution du monde, cette société n'ira pas de l'avant.
Et elle est appelée à disparaître.
Elle est appelée à disparaître. C'est ainsi qu'en 2020, en février, lorsque le président de la République a créé l'Agence congolaise de la transition écologique et de développement durable, l'esprit, c'est d'accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre de politiques publiques transformationnelles dans les différents secteurs de la vie nationale.
Oui, mais qu'est-ce que nous entendons
par... Mais basé sur...
S'il vous plaît, professeur...
Je vous écoute.
N'utilisez pas des concepts assez savants, dites-nous. les politiques publiques transnationales, en deux
dans
mots...
Dans le secteur des transports.
Dans le secteur des transports, en des termes plus simples.
Très bien. Et je vais utiliser des termes très simples. Dans le cadre du transport multimodal interconnecté, nous avons le transport terrestre, c'est-à-dire, je parle d'abord de route, nous avons les chemins de fer, nous avons les voies d'eau navigables, mais nous avons également la voie aérienne, qu'il ne faut pas minimiser. Dans le secteur des transports terrestres, surtout routes, il faut dire qu'il y a quand même certaines avancées en termes de construction de routes. Vous pouvez quitter Mwanda jusqu'à Tchikapa, il y a une route. Mais la question la plus importante dans le cadre de la transition écologique, dans le cadre du développement durable, c'est pas seulement de construire des routes. La question qui se pose, c'est comment maintenir la route dans la durée, l'entretenir, l'aménager si possible, tout en prenant en compte les enjeux transformationnels de notre société, la question du changement climatique, la question de la croissance démographique, des enjeux économiques,
la question de s'adapter à l'évolution du temps.
Il faut s'adapter à l'évolution de la société. Donc, malgré les kilomètres de route qui ont été vraiment aménagés et construits dans notre pays, mais ce qui s'est ajouté, c'était un outil important qui devrait accompagner la durabilité de ces routes. C'était la création du FONER 2008-2009. Ça, c'est très important. C'est un mécanisme financier qui a été mis en place pour que les routes soient entretenues, les routes soient aménagées, pour qu'elles durent le plus longtemps.
Les FONER existent et ils fonctionnent à plein régime.
Les FONER existent. Et ils fonctionnent en dépit de tout ce qu'on peut dire. Mais au moins, le travail s'est fait.
Ils font des entretiens.
Ils font des entretiens. Ça, c'est un pas important. Mais comme vous le savez, dans le cadre du développement durable, dans le cadre de transport multimodal interconnecté, la République démocratique du Congo, qui est un pays continent, ne pouvait pas se développer seulement avec la route. On ne peut pas être capable d'assurer la mobilité des personnes et de leurs biens seulement à travers la voie routière. Nous avons près de 25 000 km de voies d'eau navigables. Nous avons près de 5 000 km de voies ferrées que vous connaissez qui se trouvent dans un état...
En lambeaux presque.
Mais nous avons également les aéroports, les voies aériennes. Vous connaissez.
Là, il y a eu un incendie récemment. L'aéroport, c'était.
Vous savez dans quel état ça se
trouve. Il y a une vidéo qui a circulé dans la salle d'attente. J'ai été entassé comme si j'étais dans un grand marché des billets chez moi à Lissala.
Et c'est pour dire qu'il y a du travail à faire. Nous avons du boulot et il faut se mettre réellement au travail. Alors, il reste une voie importante de communication, la voie fluviale et la voie ferroviaire. Ces deux voies ont joué un rôle important pour le développement socio-économique de notre pays. Avant l'indépendance, quelques années également après l'indépendance, le chemin de fer et les voies d'eau ont été vraiment le moteur de notre développement.
Et dans l'histoire, il a été démontré que toutes les grandes nations se sont développées au cours d'eau, au bord des cours d'eau.
Bien sûr.
La Grèce, par exemple.
Bien sûr.
L'Égypte.
Les transports
parce que
fluviales
l'économie moins bleue cher, se développe, voilà,
il coûte moins cher et il est moins polluant. Et ça entraîne le développement, ça entraîne la croissance économique. Donc, en rapport avec la voie fluviale et ferroviaire, au niveau de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, depuis sa création en 2020 par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, il y a eu un travail intellectuel. Mais il faut que notre ami de Kisangani comprenne d'abord la mission qui a été assignée à l'Agence congolaise,
c'est laquelle?
C'est d'élaborer les politiques publiques transformationnelles pour le développement de notre pays.
Elle a été élaborée ou pas?
Oui, nous avons fait ce travail dans le cadre du transport fluvial et ferroviaire.
Mais on ne cesse, professeur, d'enregistrer des cas de décès, des noyades,
bien sûr,
des commerçants qui perdent leurs capitaux et qui c'est compliqué. On ne sait pas documenter des cas.
On ne sait pas documenter. Ce que vous dites, c'est ça que vous êtes en train de documenter. Mais ce qui n'est pas documenté, c'est peut-être plus grand que ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a été fait concrètement? Les vrais défis d'abord du secteur des transports fluviales, surtout en République démocratique du Congo, les défis sont nombreux. Mais les défis les plus importants, Tati, il faut les rappeler, c'est le manque de financement nécessaire pour entretenir et aménager les voies d'eau navigables de la République démocratique du Congo dans la durée. Il y a certaines rivières qui ont été entretenues seulement à l'époque coloniale. Juste après l'indépendance, ces rivières n'ont jamais connu un seul entretien, un seul aménagement.
Oui, et dans certains biefs, je vous le précise, nous étions dans le tourbière et au-delà de Mbandaka. Vous arrivez là, vous avez l'impression qu'il n'y a que vous qui avez mis les premiers, les pas dans ces cours d'eau.
Et vous êtes peut-être, vous avez l'impression que vous êtes le premier, alors que ce sont des voies qui étaient utilisables, qui étaient navigables, peut-être à l'époque coloniale, mais juste après l'indépendance, ces voies ont été minimisées. Alors, comment trouver des ressources nécessaires? Aujourd'hui, avec la question du changement climatique, les bandes de sable dans les rivières de la République démocratique, on n'en trouve partout, avec toutes les conséquences sur la navigation. Vous avez des noyades, des naufrages partout, presque chaque semaine, à travers les eaux de la République démocratique du Congo.
Et on est en saison sèche avec les vents violents. De la saison sèche, il y aura encore beaucoup de cas, beaucoup de cas.
Parce les balises, les signalisations.
Les embarcations qui circulent là, il ne faut pas appeler ça embarcation, il faut chercher une autre appellation. Bon, moi, bien, moi, Ibora.
Ibora. Ça veut dire quoi?
Ils prennent des grilles, ils amassent des grilles,
puis les gens se mettent dessus pour commencer à naviguer. Oui, mais en fait, pour solutionner cette question épineuse de l'entretien et de l'aménagement des voies d'eau navigables en République démocratique du Congo, nous avons associé en même temps le chemin de fer. C'était de réfléchir sur un mécanisme innovant, un mécanisme intelligent qui devrait aider à collecter les ressources nécessaires pour assurer l'entretien et l'aménagement des voies d'eau navigables dans la durée. Ce travail a été déjà réalisé depuis 2021. C'est-à-dire, les outils nécessaires pour la création du fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires ont été disponibilisés depuis 2021.
Avec un découpage précis sur les réseaux hydrographiques, les voies ferroviaires et l'interconnectivité.
Très bien. C'est parce que les structures qui devraient bénéficier des fonds, ce sont les structures qui gèrent ces voies. Vous avez le bief supérieur, vous avez le bief moyen, qui sont gérés généralement sur les voies d'eau, qui sont gérés par la régie des voies fluviales et ferroviaires. Vous avez les biefs maritimes, c'est géré par la Congolaise
des voies maritimes.
C'est donc, et toutes ces structures qui interviennent dans l'entretien et l'aménagement des voies d'eau, également du chemin de fer, ont été impliquées. Ce sont ces structures qui devraient être finalement les bénéficiaires. Donc, comme je l'ai dit, tous les outils nécessaires ont été disponibilisés au niveau de l'Agence congolaise de la transition écologique et de développement durable depuis 2021. C'est pourquoi aussi vous avez suivi le président de la République lors de son adresse à la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en 2021, 2022, 2023, 2024. Il a instruit le gouvernement à matérialiser la mise en œuvre du fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires. Donc pour nous, le travail a été déjà fait. Et maintenant, nous sommes passés même à une autre étape, parce que comme vous le savez, Tati, l'ensemble de l'arsenal juridique qui régit les secteurs de navigation et des chemins de fer en République démocratique,
c'est vieux.
Il date de l'époque coloniale. Vous avez les décrets de 1920, 24 et 40. Je crois que la loi qui semble être récente, c'est le code de 1966. Mais c'est trop vieux par rapport à l'évolution de notre société. Donc aujourd'hui, il y a un travail qui se fait au niveau de l'Agence congolaise de la transition écologique, ensemble avec les acteurs concernés, pour que les lois, les codes de navigation, les codes ferroviaires soient actualisés, pour prendre en compte pas seulement l'enjeu de la transition écologique, mais pour prendre aussi en compte la question de l'intégration économique africaine et de l'intégration économique nationale qui se pose avec acuité en République démocratique du Congo. Donc, pour nous, le travail a été fait. Nous sommes dans une autre étape. Alors, c'est vrai que notre ami dit, comment on ne voit pas quel est le travail? Oui.
Il a tort ou il a raison?
Il n'a pas raison parce qu'il n'a pas d'information.
Il n'est pas bien informé. On ne dit pas que ça existe du point de vue document. Il veut avoir l'opérationnalisation.
Il veut avoir l'opérationnalisation. Très bien. Lorsque les outils sont disponibilisés, comme c'est écrit dans l'ordonnance portant création de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement, qui devrait travailler avec les institutions de la République et d'autres partenaires, nous mettons les outils à la disposition du gouvernement pour des dispositions utiles. Donc, l'Agence congolaise de la transition écologique n'a pas pour mission d'opérationnaliser les fonds. Le travail de l'opérationnalisation du fonds, qui est une structure importante, qui devrait accompagner les
fonds. Vous faites un travail technique, ça s'arrête là.
Nous faisons un travail technique. Mm. Les travaux d'opérationnalisation relèvent de la responsabilité du gouvernement de la République. Nous avions transmis le document, comme je l'ai dit, depuis 2021. Il y a le Premier ministre qui doit jouer un rôle important, qui doit signer les décrets portant création d'un établissement public, parce que la loi reconnaît au chef du gouvernement cette mission. Il appartient au ministre sectoriel, c'est-à-dire les ministres de transport et voies de communication, finances et économie, qui doivent signer un arrêté interministériel dont les documents, déjà, les propositions ont été déjà rédigées, comme je l'ai dit, depuis 2021. Et comme vous l'avez dit, Tati, la réflexion a bien commencé bien avant, en 2019. Déjà, lorsqu'on travaillait sur le programme national hygiène et assainissement.
Hygiène, eau et assainissement.
Déjà, l'idée de mettre en place...
La réflexion a déjà été lancée.
La réflexion a été déjà lancée. Donc, on peut dire aujourd'hui, ça fait 6 ans que nous sommes toujours en train de tourner autour du pot, alors que les instructions claires ont été données, les outils ont été disponibilisés. Il appartient au gouvernement de faire le travail qui lui revient. Pourquoi le gouvernement doit aussi faire ce travail? Parce qu'il s'agit d'une initiative présidentielle. C'est le président de la République qui s'adresse à la nation. Tati, quand le président va à l'Assemblée pour parler, qui sont devant là-bas?
Les élus du peuple.
Non, les élus, c'est après, c'est d'abord les ministres. Les membres du gouvernement.
Oui. Les ministres et puis les élus du peuple.
Il y a d'abord les ministres et puis les élus après. Mm. Donc tout ce que le chef de l'État dit, les premières personnes
concernées,
ce sont les ministres.
Tout à fait.
Tout ce que nous disons, nous puisons ça où? Dans les discours du président de la République. Il l'a dit en 2021. Mm. Il l'a dit en 2022, en 2023 et en 2024. Quand vous lisez le compte-rendu du Conseil du ministre du 18 août 2023.
Mm. Les deux ans passés.
Le chef de l'État est revenu sur la création du FONEF. Et là, il est allé très loin pour demander au gouvernement et les ministres sectoriels de travailler le plus rapidement possible. Pour que les FONEF soient opérationnalisés. Donc, au niveau de l'agence qui est un service présidentiel, le travail a été fait. Il appartient au gouvernement, Tati, de remplir sa mission, et de matérialiser l'instruction du président de la République. Les outils sont déjà disponibles pour que les fonds d'entretien soient créés. Parce que
oui, mais si je vous comprends, monsieur le coordonnateur adjoint, il y a un problème de collaboration ou d'intégration d'agenda avec vous et les ministères sectoriels concernés.
Non, il n'y a pas un problème de collaboration. Il y a un problème peut-être de lenteur dans la manière de faire les choses. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas le discours de l'agence.
Non.
C'est le discours du président de la République devant les chambres du Parlement où il a instruit le gouvernement de la République d'opérationnaliser les fonds. Donc, ce n'est plus au niveau de l'agence, c'est au niveau du gouvernement, qui doit nécessairement obligatoire. Ça, ce ne devrait pas quelque chose qu'on devrait rappeler au gouvernement.
Non.
Je vous ai dit, lorsque le président s'adresse au peuple devant les deux chambres du Parlement, ce sont les ministres qui sont en première
position. Mais pourquoi les députés, les élus nationaux ne récupèrent pas la question?
Mais je ne sais pas.
Il est aussi
parce déroulant. Parce que il n'y a pas d'alternative. On ne doit pas toujours attendre que les gens meurent.
Et puis, ils vont dire, moi, élu de
Mongananga, et moi, donnez-moi l'argent pour aller assister.
Mais
la bonne manière d'assister les gens,
c'est de plaider pour l'amélioration.
C'est de plaider pour l'amélioration des conditions de navigation en République démocratique. Et parmi les initiatives qui peuvent aider à l'amélioration des conditions de navigation, c'était la création du fonds. C'est pourquoi le président est revenu à plusieurs reprises sur ça. Nous l'avions déjà dit. Le FONER est un outil important de notre développement pour l'amélioration de la circulation routière. Aujourd'hui, vous êtes à Mwanda jusqu'à Tchikapa. Bon, en dépit de tout, quand même, c'est acceptable. Mais sur les voies navigables et ferroviaires, nous assistons à un chaos. Il n'y a pas d'alternative.
Non.
La seule alternative, c'est cette initiative présidentielle où on a demandé au gouvernement d'opérationnaliser les fonds. Alors la question maintenant, quand vous dites qu'il y a un problème de quoi?
Moi, attendez, professeur, il y a des auditeurs qui sont là. On part au standard, s'il vous plaît.
J'allais terminer.
Allez-y.
Le véritable problème, c'est que vous êtes la radio de la paix. Il n'y a pas de paix là où il n'y a pas de développement.
Non.
D'ailleurs, l'absence de développement peut créer l'insécurité.
Non, pas créer.
Crée déjà l'insécurité.
Occasion de l'insécurité.
Alors, tout ce qui se passe, des noyades, des morts, c'est des choses qu'on pouvait éviter. Je crois que pour faire avancer les dossiers, il serait important également, sur votre table, vous invitez les membres du gouvernement concernés. Vous invitez la première ministre.
Oui, mais
qui a la mission.
La main tendue, elle est là.
Oui, oui, vous l'invitez.
C'est la maison de tout le monde.
C'est la maison de tout. Vous invitez la première. Parce que maintenant, à notre niveau,
il n'y aura plus de pression. Même le ministre des Transports, la radio, c'est la maison de tout le monde.
Il faut les inviter parce qu'il s'agit d'une instruction du président de la République. Comment le chef de l'État est revenu à 4 reprises pour donner l'instruction au gouvernement d'opérationnaliser les fonds? Ça fait 4 adresses à la nation. Un compte rendu du Conseil des ministres où on revient sur l'opérationnalisation du fonds. Qu'est-ce qui fait que les fonds neufs ne soient pas
créés? Matérialisés.
Ça, c'est la question dont la réponse pourra venir du gouvernement, du Premier ministre ou de la Première ministre.
Ça, c'est plus au niveau de l'agence. Ministère.
C'est plus à notre niveau.
Et c'est à ce stade-là qu'il y a un flou général.
Nous avions fini le travail.
Oui.
Donc, notre ami de Kisangani, peut-être, n'a pas beaucoup d'informations. Si le pouvoir de créer les fonds revenait au président de la République, les fonds seraient déjà créés. Parce que lui-même en a parlé plus.
Attendez, on va revenir ici au studio. On part d'abord au standard. Il y a les auteurs qui attendent. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Joseph, vous êtes à Likassi. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous. Monsieur Joseph, vous nous écoutez? Déplacez-vous un tout petit peu de là où vous êtes, monsieur Joseph. Ok, allez-y.
Merci bien. Maintenant, le développement durable.
La qualité phonique n'est pas fiable. On va te relancer, monsieur Joseph. On prend Thomas. Thomas, lui, qui est à Kisangani. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je vous dis bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la radio Papi.
On vous donne la parole.
Merci beaucoup. Merci de la parole. Je crois, en tout cas, le est un pays, en tout cas, riche en ressources. Mais on voit qu'on est confronté, en tout cas, à des problèmes de vie environnementaux, mais également sociaux, économiques, aujourd'hui. La transition écologique dans le domaine de transport et voie de communication, il y a tout pour le monde de développement économique, pour le développement durable même du pays. Mais c'est très important dans la transition écologique. Mais, ça, monsieur Tati, cette transition nécessite beaucoup. Notamment, il faut qu'il y ait un ensemble surtout de paroles à réunir à faire situation évidemment. La vision là existe beaucoup de choses peuvent entrer à ligne de compte.
Oui, mais la vision elle est déjà élaborée. La vision c'est dans les attributions d'ACTEID. Et l'ACTEID a déjà élaboré la feuille de route pour la transition écologique dans le domaine des transports et développement durable en RDC d'ici 2030. Mais ça fait 5 ans que ça n'avance pas. C'est ça le problème.
Allô?
Oui, je vous reçois. Allez-y. Allô? La zone n'est pas assez bonne avec la ville de Kisangani. Oui, lui, il pensait que... Oui, le fond de sa pensée, allez-y.
Oui, j'ai compris le fond de sa pensée. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Je dis comme tout le monde le sait, là où passe une voie de communication, il y a le développement qui suit. Et là où il n'y a pas de voie de communication, on ne peut pas s'attendre au développement. Comme je l'ai dit, le travail pour aider, pas l'ensemble du secteur des transports, mais comme je l'ai dit, dans le cadre du secteur fluvial et ferroviaire, un travail important a été réalisé pour solutionner les problèmes de financement de l'entretien et de l'aménagement des voies d'eau navigables. Nous en avons près de 25 000 kilomètres. Il n'y a pas un pays au monde qui donnera des ressources à la République démocratique du Congo
en permanence.
Pour faire ça, nous avons l'expérience du FONER qui semble bien marcher. Donc cette expérience pouvait être capitalisée également au niveau du secteur fluvial et ferroviaire pour que le pays avance. Donc, les textes portant création et opérationnalisation du FONER ont été déjà rédigés, les outils ont été disponibilisés, il appartient au gouvernement de pouvoir matérialiser ce que nous appelons l'initiative présidentielle, parce que le président, comme je l'ai dit, en a parlé à plusieurs reprises.
Mais est-ce que, professeur, ici à Kinshasa, ça c'est au niveau national, on retourne ici, parce que Kinshasa c'est le miroir de la capitale congolaise, est-ce que vous avez également pensé à une projection d'ici 2030, parce que à l'allure où vont les choses, dans 3-4 ans, ça sera intenable ici.
Oui, merci beaucoup, Jody. La question de la ville de Kinshasa, c'est une question très complexe et globale. D'abord, le premier défi à relever pour la ville de Kinshasa, tout comme pour d'autres villes de la République démocratique du Congo, c'est l'absence de plan d'urbanisme. Donc, sans plan d'urbanisme, et c'est très difficile de faire quoi que ce soit. Il n'y a pas de programme clair de développement urbain pour nos villes. Il y a quelques programmes, il y a le programme de développement urbain de Kinshasa qui avait été élaboré, mais qui n'a jamais été mis en place. Et dans ce programme, c'était un mode de transport
multimodal. Oui, financé même par les partenaires extérieurs.
Oui, il y avait le chemin de fer qui devrait reprendre correctement, il y avait le fleuve Congo qui devrait être utilisé pour les navettes, il y avait également la rivière Ntsele, la rivière Njili.
Oui, mais le problème est que ça risque de rester comme ça pour les 4.9 aussi.
Bon, ne voyez pas le problème que ça va rester comme ça pendant longtemps. C'est pourquoi vous nous voyez en train
de faire les plaidoyers.
De faire les plaidoyers pour que les choses ne restent pas comme. Parce que si nous acceptons, nous avions peur de dire que bon, ce n'est pas mon problème, comme ils n'ont rien fait, vous ne faites pas les plaidoyers, le pays risque de s'enfoncer.
Tout à fait.
Et demain, nous serons responsables devant les générations futures. Les gens ne manqueront pas à nous dire, non, professeur Minengo, vous avez, le président de la République vous a confié l'Agence congolaise de la transition écologique et de développement. Qu'est-ce que vous en avez fait? Les gens nous poseront plusieurs questions.
Oui.
Les gens vont nous poser des questions. Et surtout que quand les gens n'ont pas l'information, ils pensent que nous avons tous les pouvoirs pour agir et pour matérialiser toute la réponse.
Il y a un défi majeur pour ça, parce que les villes ne sont pas interconnectées. Vous arrivez en Ituri, à Bounia par exemple, vous voyez des belles avenues, et quand vous arrivez dans la périphérie, là, les routes se coupent, et puis se coupent, et puis ce sont des routes en terre, et puis des gens circulent dans des conditions très difficiles, surtout sur des routes nationales.
Oui, Tati, je voudrais un peu répondre à cette question dans une approche globale du Kivu. Vous savez, la question sécuritaire qui reste très pendante dans le Kivu pendant plusieurs années, a plusieurs origines, a plusieurs causes. C'est vrai qu'on peut parler des conflits communautaires, on peut parler de l'exploitation des ressources naturelles, mais il y a également un élément important. Le Kivu, en tant que partie intégrante de la République démocratique du Congo, n'a pas été connecté des autres provinces de la République par des voies de communication. Ce qui fait que le Kivu semble être isolé des restes partis de la République démocratique du Congo, et d'office, comme l'économie c'est le ciment du social, le Kivu devient d'office
dépendant
du bloc économique des pays de l'Afrique de l'Est. Donc, si même la guerre s'arrêtait aujourd'hui, il y a un défi important. Nous revenons encore sur les transports. Le Kivu doit être connecté
au reste de la ville, au reste du pays.
Du pays, avec des voies de communication viables. Parce que l'économie cimente les sociales.
Et c'est la clé,
du
développement, dit-on.
Du temps. Et même sur le plan sécuritaire, une région enclavée, ça fait plus de 30-40 ans, il n'y a pas de voie. Comment vous allez assurer la sécurité dans cette région? C'est pratiquement impossible. Et surtout qu'une région qui est aussi riche
en minerais,
en ressources. Là, tous les charognards vont se positionner parce qu'ils savent ici c'est difficile de déployer les forces de l'ordre, il n'y a pas de routes, il n'y a pas de chemin de, il n'y a pas d'aéroport viable. Et tout ça crée suffisamment de. Donc la question des transports telle que nous sommes en train d'évoquer ça ici, c'est une question centrale de notre développement. Je l'ai dit ici, là où passe la voie de développement, là où passe la voie de communication, c'est le développement qui vient.
Oui.
Et là où il y en a pas, c'est quoi?
C'est le sous-développement, la pauvreté, l'insécurité.
Donc je crois qu'il y a un travail important qui a été fait, nous continuons toujours à travailler. La transition écologique ne concerne pas seulement les secteurs de transport.
Non, on a pris uniquement les volets secteurs de transport.
C'est pourquoi je voudrais expliquer à notre ami qui nous a suivi. Donc, nous, on ne restera pas éternellement sur le secteur de transport.
Mais ça, les lignes ne bougent pas.
Mais ça va bouger. Je reste convaincu que les lignes bougeront parce qu'il s'agit d'une initiative présidentielle. Le président en a parlé et je voudrais vous aussi, Radio Capi, au lieu d'organiser encore d'autres émissions pour dire, ah bon, il y a des naufrages, les gens sont morts. Restons dans une approche pragmatique. Invitons la première ministre, invitons le ministre des Transports et Voies des Communications, invitons le ministre des Finances, invitons pour qu'il nous explique pourquoi les FONEF, dont le président en a parlé à plusieurs reprises, n'a jamais été mal. Quel est le véritable problème?
Mobile.
Là, je crois qu'on pouvait avancer.
Okay.
Pour l'agence, en tout cas, notre travail se limite à ce niveau-là. Le reste, il appartient au gouvernement de pouvoir faire bouger les choses.
On va aller au standard pour donner la parole à John Delicacy. Bonjour et bienvenue, Joseph. La qualité phonique est très mauvaise, s'il vous plaît. Baissez le volume de la radio pour que l'on s'écoute mieux.
Oui.
Oui, ça va maintenant.
Là, on vous écoute mieux. Éteignez la radio, écoutez-nous au téléphone.
Nous voyons que pour y arriver, il faut adresser beaucoup. Donc là, on met les dirigeants, ceux qui pensent en viabilité. Ce que je considère aujourd'hui, c'est que vous passez des années. Et ça fait aller conseiller des flous. Mais ceux qui arrivent à mettre les dirigeants, c'est qu'il faut aller bien travailler. C'est là où nos colonisateurs ont bien travaillé comme ça. Mm. Il a pensé et conseillé le chemin du fait que le risque est très viable que jamais. Mm. Et maintenant, vous pensez la réduire. Des nations, des troubéants, ce qu'on appelle ni des poules qui se commandent. Et vous revenez sur la même place de la route. Et en fait, le président vous instruit le gouvernement pour travailler. Mais chaque gouvernement-là, il refuse de l'ordonnance présidentielle. Maintenant, c'est la tête qui ne travaille jamais. Ce n'est pas force de la République. Il n'y a pas d'invité. Il a été déjà là, mais manque de moyens pour aller travailler. Où sont les moyens de l'argent contribuable des populations congolaises? Où c'est partout les formes de choses pour récolter dans les chemins? Maintenant, notre gouvernement travaille, je sais qu'il travaille, mais l'endurabilité de ceux qui travaillent notre gouvernement est trop biaisée. Pour y arriver, il faut travailler en durant, pour trouver que demain je passerai. C'est tout. Restera longtemps. Là-bas, vous êtes. Il y a l'avenir comme passer les salons. Et vous voyez ce qu'on a construit il y a longtemps. C'est donner le fait qu'il arrive le moyen de construire notre bien comme ça pour aller à l'Iran. Pour faire arriver notre pays à développement durable. Mais si nous ne constatons pas en pilotage, maintenant, mais que je ne dis pas d'accès à la région, nous retenons sur le même statut de développement durable. Merci à l'invité, merci à tout le monde. Merci.
Merci beaucoup, hein, Monsieur Joseph. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Likasi que vous intervenez, malgré la qualité dégradée de la qualité phonique. Mais le fond de votre idée, nous l'avions écouté. Les colons avaient laissé déjà un réseau plus ou moins acceptable, mais nous, on a encore désagrégé le peu de réseau qui permettait quand même d'interconnecter les régions de la République démocratique du Congo. L'invité aura le temps de revenir sur tes préoccupations. Monsieur Robert Adioku, vous êtes à Bounia. Bonjour.
Bonjour Radio Okapi, hommage à vous et à l'intervenant. Comme vous le savez, le développement, ça doit être la vision de tout peuple, de tout être humain. Raison pour laquelle nous félicitons l'invité. S'il peut, tout ce qu'il dit là, mettre ça par écrit, remettre ça à toutes les autorités, à commencer par le chef de l'État. Et comme vous le savez, il y a un problème de volonté politique dans notre pays. En dehors de la volonté, il y a le manque de contrôle, de suivi, d'évaluation et même de sanctions. Donc, vraiment, je ne comprends pas ce qui se passe exactement dans notre pays. Mmh. Moi-même, je me suis toujours posé la question de savoir qui va finalement sauver ce pays. Nous, le peuple congolais, nous sommes distraits. Trop distrait, alors que le bon Dieu nous a donné tout sauf rien. Hein? Dans moins de 5 ans, ça c'est ma conviction profonde, on peut mettre ce pays sur les rails de développement et nous serons très puissants dans tous les secteurs de la vie. Hein? Nous serons d'abord l'autosuffisance alimentaire et la puissance sur le plan militaire, et énergétique et tout. Je n'apprends rien à l'auguste assemblée et aux auditeurs qu'il y a 3 secteurs qui constituent le secteur d'appui à l'économie. Il y a la route, l'eau et l'électricité.
Okay.
Lorsque les 3 secteurs sont développés, le reste se développe automatiquement, criblé de la volonté politique. Hein? Et maintenant, un autre problème, c'est la formation de la conscience nationale. Donc, toutes les forces vives dans un pays doivent jouer ce rôle-là. Malheureusement, il faut quand même avouer que les églises, certaines ONG, la société civile, faut quand même correctement leur travail, mais ça ne suffit pas.
Oui, mais honorable, activement honorable, honorable s'il vous plaît, la vision, honorable s'il vous plaît, la vision doit être portée par vous, honorable, par l'instance gouvernementale et par les agences sectorielles et à qui on a confié ces attributions.
Vous avez tout à fait raison. Principalement, ça doit se faire par les chefs de l'État, les gouvernements, les parlements, les cours et tribunaux, comme pour dire les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Maintenant, les autres forces doivent accompagner. Et toutes ces autorités, tous ces pouvoirs doivent aussi être attentifs. Oui. Alors, je ne sais pas je suis député national honoraire, il faut avouer que nous ne faisons pas correctement notre travail. Même la vulgarisation
de votre sincérité.
De tous les textes de loi, il faut vulgariser ça à la population. Oui. La formation constitue le fondement des pouvoirs. La démocratie, comme les juristes l'admettent, l'éducation en général, mais principalement la formation. Donc votre préoccupation est vraiment pertinente.
Merci beaucoup. Répondez-vous directement à M. Robert Adiokou, honorable honoraire de Bounia.
J'ai suivi l'honorable par rapport à son intervention qui est très très pertinente. Il a parlé de la volonté politique, il a parlé du contrôle, il a parlé du suivi, il a parlé de la formation de la conscience. C'est hyper important. Je voudrais revenir sur un point important où il a soulevé le suivi. Nous sommes un service spécialisé du président de la République. Lorsque les chefs de l'État s'adressent à la nation, dans les secteurs qui nous concernent, nous nous y mettons au travail et nous faisons le suivi. C'est ça que nous sommes en train de faire maintenant. Le président a demandé au gouvernement d'opérationnaliser les fonds. Pourquoi les fonds n'ont pas été créés? C'est ça le suivi que nous sommes en train de faire. Au-delà des correspondances administratives, nous passons à travers les médias pour faire les plaidoyers, pour que l'instruction du chef de l'État soit
écoutée et puisse
être matérialisée. Exactement. Parce qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui, administrative, une raison politique, une raison sociale, pour que les fonds ne soient pas créés, surtout que c'est l'une des solutions au chaos qui règne dans les secteurs du voie fluvial et voire même ferroviaire en République démocratique. Quelle est l'alternative pour le gouvernement? Il n'y a rien.
Il n'y a aucune solution.
Il n'y a aucune solution. Mais pourtant, l'initiative présidentielle semble être la solution au problème qui se pose dans la société. Alors pourquoi le gouvernement traîne les pieds 4 ans après sur... Comme vous l'avez dit, depuis 2019, ça va faire combien?
6 ans. 6 ans et demi. On est déjà en juin.
Pour quelque chose dont les outils ont été déjà disponibilisés depuis 2021, on passe 4 ans, on a 6 ans depuis que la réflexion a commencé. Mais il y a des projets qui sont portés également par la CTED, qui demandent, les projets et même demandent 5 ans, 6 ans.
De matérialisation.
Alors là, on fera je ne sais pas combien d'années. Et ça nous prendra un siècle pour matérialiser ça, avec cette manière de faire les choses. Donc, je suis parfaitement d'accord avec lui. Et vous savez, Tati, lorsque le gouvernement est allé présenter son programme devant les députés, ils ont promis de créer près de 6 millions d'emplois d'ici 2028.
Oui, c'est à 2 ans des atteintes des ODD.
Oui,
mais... C'est particulièrement des objectifs.
Oui, mais vous savez que la création du FONEF pouvait aider également à créer quelques emplois.
Tout à fait.
J'ai été d'accord avec lui. Il y a un intervenant qui a parlé. Ici, dans le cadre du fonds d'entretien des voies, il n'y a pas beaucoup de taxes ou beaucoup de redevances qui ont été créées. Ce sont les redevances qui existent qu'on a essayé de mettre ensemble pour que l'argent puisse servir réellement à l'entretien et à l'aménagement des voies d'eau navigables de la République. C'est ce travail intellectuel.
On ne cherche pas, les ressources sont là.
Donc, les ressources ne posent pas de problème. Mais il faut avoir un cadre légal, un cadre connu, un établissement.
Une ordonnance gouvernementale.
Un décret, parce que l'établissement doit être créé par les décrets. C'est pourquoi je vous ai dit que si tout était au niveau du président en public, ça serait déjà fait, parce que c'est son initiative. Mais comme c'est le gouvernement qui doit faire, les gens traînent les pieds. Et nous, en tant que service du président de la République, nous sommes en train de faire des plaidoyers, nous sommes en train de faire le suivi pour ce que c'est que le président a dit devant eux. Les membres du gouvernement, qui avaient pris la première position. Nous, on était même avec...
En présence des députés nationaux et des sénateurs.
Devant la nation.
et devant la nation congolaise également.
Bien sûr. Nous, on n'était même pas là. Nous, de ces fois, on ne pouvait pas arriver là-bas. On était très loin là-bas pour écouter. Mais eux, ils étaient à quelle fenêtre
du chef de l'État.
C'est tout ce qu'il a dit. Les outils ont été disponibilisés. Qu'est-ce qui fait que 4 ans après, les choses n'avancent pas? Je vous ai dit, je reviens encore. Vous pouvez, dans le cadre d'une approche de solutionner ces problèmes, d'inviter les acteurs concernés. Parce qu'aujourd'hui, l'agence n'est plus concernée par la matérialisation du FONEF. C'est le gouvernement, c'est-à-dire la première ministre qui doit signer les décrets et les ministres sectoriels qui doivent signer l'arrêté interministériel qui fixe les ressources. Et tout ça, c'est déjà fait.
Mais ça se fait en une semaine ou en 3 jours?
Quelle une semaine? Tout est déjà fait. Comme il l'a dit, il y a quelques problèmes dont moi-même j'ignore. Donc, les problèmes, c'est eux-mêmes. On attend encore, lorsqu'il y aura des naufrages, dans une semaine ou dans 2 semaines ici, il y aura encore des naufrages. Bon, on va dire, non, c'est dans mon village, il y a des gens qui sont morts, donnez-moi l'argent pour aller assister les gens. Pourquoi on doit attendre que les gens meurent, alors qu'on pouvait éviter ça en solutionnant de manière peut-être partielle les problèmes? Donc, je crois que l'honorable avait pleinement raison, mais nous devons continuer toujours à faire le plaidoyer. Et vous, en tant que les médias, vous devez également jouer ce rôle. Pour que la réponse, parce que si les choses ne marchent pas, nous sommes tous victimes. Hein.
Oui, mais l'auditeur de Sigassi, il a dit, les petits réseaux qui existaient, laissés par les Belges,
oui.
Restaient en lambeaux. Oui. Les réseaux ferroviaires et routiers, c'est compliqué.
Oui, c'est pourquoi je crois qu'on l'a dit. Les réseaux, par exemple, ferroviaires, ils n'existent même plus. Parce qu'on ne peut pas.
Il faut chercher d'autres concepts.
Il faut chercher d'autres concepts. Je l'avais dit une fois ici, je dis, dans le cadre de la zone de libre-échange continentale, il ne faut pas que la République démocratique du Congo soit un obstacle au développement du continent. L'Afrique doit être reliée. L'Afrique ne sera pas reliée avec cette façon de faire des choses qui peuvent réaliser en 3 jours, on les fait après 10 ans.
Ou un déversoir des pays et des autres pays frontaliers.
Oui, mais le problème c'est quoi? Si nous devenons un obstacle pour l'avancement du continent, eh bien, les États voisins viendront faire à notre place.
Mais c'est le cas de l'Ouganda qui le fait.
Ils vont construire des routes, ils vont construire les chemins, parce qu'ils disent, mais écoute, nous, on veut traverser ici, on va de l'autre côté, vous êtes en train de traîner les pieds, nous, on doit les faire. Et nous, on fait. Donc, alors que nous avons des moyens. Donc, le travail a été fait. Les réseaux ferroviaires, je vais vous donner, et je vais vous dire quelques vérités. Vous savez, les chemins de fer, Ilebo, Lubumbashi, n'a pas joué seulement un rôle économique, hein. Il a joué, par exemple, vers chez nous, un rôle important pour la formation de l'élite. C'est quand vous voyez des gens de chez nous, là, vers Idiofa et tout ça, ceux qui nous ont pris, la génération avant nous, ils n'ont pas étudié à Kinshasa. Pourtant, nous sommes à quelques kilomètres de Kinshasa.
Oui.
Mais les gens allaient où?
À Lubumbashi, à Kisangani.
Pourquoi? Parce que déjà, une fois vous êtes, par exemple, à Dibaya, où vous avez la possibilité d'arriver avec un canon, avec une pirogue, oui, à Ilebo. Et à partir d'Ilebo, les trains, peut-être gratuits pour quelques étudiants, le coût c'est moins cher.
Moindre, oui.
Vous avez 2 fuits d'huile, vous vendez à Lubumbashi, vous avez de l'argent pour l'étude, vous payez les études et les gens. C'est pourquoi vous avez les aînés qui ont étudié avant nous, pour la plupart, ces gens-là, ont fréquenté les universités à Lubumbashi. Nous, nous sommes venus à Kinshasa lorsque le réseau s'est dégradé. Lorsque le réseau s'est dégradé, nous avons changé d'itinéraire. C'est pourquoi nous sommes venir à Kinshasa. Donc, c'est un réseau qui a joué un rôle, pas seulement sur le plan économique, mais qui a joué un rôle sur la formation de l'élite, par exemple, vers chez nous. Donc, le chemin de fer, c'est un grand outil du développement socio-économique de la République. Et nous sommes dans l'obligation morale, nous sommes dans l'obligation politique, économique, de refaire le réseau et d'aménager les voies d'eau navigables de la République démocratique du Congo. Je crois que ce travail, la réflexion a été déjà menée. Et nous mettons ça à la disposition de ceux qui ont le pouvoir d'exécuter. Nous, on n'a pas un pouvoir décisionnel. Nous avons un pouvoir de réflexion. Et les réflexions, nous mettons les outils à la disposition de ceux qui ont le mandat de les faire, pour les faire.
On retourne à Kisangani, professeur. Je pense que cette fois-ci, la liaison est bonne avec Thomas.
Thomas.
On vous écoute, Thomas.
Merci beaucoup, monsieur Jody Tati, et bonjour à l'invité. Avant, il y avait un petit souci lié à la police.
Je disais, monsieur, maintenant c'est bien.
Merci beaucoup. Je disais, monsieur Tati, en tout cas, cette transition de c'est la transition écologique, bien sûr, passe par beaucoup de stratégies ou de mécanismes qui devraient être, en tout cas, au préalable, être évalués. Notamment, par exemple, la sensibilisation et l'éducation, monsieur Jatati. Premièrement, le premier préalable à la réussite de la transition écologique dans le secteur des transports réside également dans la sensibilisation, mais également dans l'éducation des populations. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait, en tout cas, en amont des, on doit prendre en tout cas des mesures de conscience, surtout aux citoyens, pour les impliquer sur l'importance des enjeux environnementaux liés au mode de transport actuel. Deuxièmement, c'est-à-dire à travers des campagnes de sensibilisation, bien sûr, mais c'est-à-dire. Deuxièmement, il y a également les infrastructures et l'investissement, mais c'est-à-dire. La transition du secteur des transports passe également par l'investissement massif dans les infrastructures. L'évité à parler ici, je ne sais pas, l'état actuel de la RDC en matière des infrastructures, c'est comment? C'est chaotique, monsieur, je vous dis. À commencer par la route, à passer par les chemins de fer, et même, voire même les transports fluviaux, c'est vraiment très déplorable. Quel est l'état de nos infrastructures pour le moment? C'est vraiment très déplorable, monsieur Tati. Et également, il y a aussi la gouvernance et la réglementation, monsieur Tati. L'autre préalable également essentiel, c'est la mise en place, en tout cas, d'une gouvernance efficace et d'une réglementation adéquate, monsieur Tati. Moi, je pense, si le secteur des transports nécessite, par là, le secteur des transports nécessite en tout cas une planification, monsieur Jodron. On ne peut pas faire des choses seulement 20-20 comme ça. Il faut qu'il y ait une planification stratégique, monsieur Tati. Ça pourra lutter, ça pourra en tout cas, qui prône en tout cas l'objectif de durabilité. Mais comme piste de solution, parce qu'on est là également pour proposer.
Rapidement, le temps s'égrène vite, cher Thomas.
Exactement. En cas de. Pour les problèmes de durabilité, mais aussi de la transition écologique. Moi, je suggérais qu'il faut qu'il y ait réduction même de CO2, mais également l'utilisation des véhicules électriques, ça pourrait également contribuer.
Oui, mais si on ne sait pas déjà gérer les véhicules qui roulent avec énergie fossile, c'est compliqué. Merci beaucoup, excellente journée au niveau de la ville de Kisangani.
Oui, merci beaucoup. Je remercie notre ami.
D'ici, il nous reste 4 ans et demi pour atteindre les ODD. Êtes-vous sûr que, avec ces modes opératoires, on va atteindre les ODD? On va répondre aux objectifs.
Oui, quelques ODD peuvent être atteints. Ça dépend des implications parce que le développement, c'est pas l'affaire d'un individu. C'est pas le problème du président de la République. Il faut une implication de toutes les structures ou de toutes les couches de la société. Donc, si tout le monde ne s'implique pas, il sera difficile d'atteindre l'ensemble.
Même la communauté, s'il n'y a pas adhésion, ça ne marche pas.
Il faut que la communauté adhère, il faut que les acteurs qui ont le pouvoir de décider décident, prennent les bonnes décisions pour faire avancer la suite. J'ai beaucoup aimé notre ami Thomas qui a parlé de l'agrémentation. Je crois qu'il ne nous a pas bien suivi.
Il nous a pris
à court. Nous l'avions dit par rapport au secteur des transports fluviales et ferroviaires, les textes qui régissent des secteurs datent de l'époque coloniale. Les experts sont à pied d'œuvre. Ça, c'est encore au niveau de l'agence. Quand nous allons finaliser ce travail, nous n'avons pas la mission d'aller très loin. Nous allons prendre les propositions,
vous le
disposez. Nous allons les disponibiliser pour le gouvernement. Il appartiendra encore au gouvernement de pouvoir
faire avancer le
projet. Mmh. Si le gouvernement dit qu'ils vont matérialiser ça dans 20 ans, nous, on n'a pas le pouvoir de le faire. Donc, on sera en train de tourner en rond. D'où l'implication surtout des médias et des autres organisations de la société pour faire avancer les choses.
Et les communautés locales hein, qui sont les premières victimes de cette situation.
Bien sûr, il faut
partout
que
à travers les
il faut que les communautés locales soient impliquées. Ça, c'est extrêmement important.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, professeur Jean-Didier Minengou. Nous rappelons que vous êtes coordonnateur adjoint d'ACTAID pour débattre de ces sujets sur la transition écologique dans le domaine de transport d'ici 2030. C'est par ici que prend fin au capi-service que vous a présenté Tatima Poukou sous la supervision de Jean-Marc Matouaki et Lise Kavira. Ariel, ces rendez-vous et Debs Vita étaient à la prise des sons. Le rendez-vous est pris pour demain pour un nouveau rendez-vous du magazine Okapi Service. Excellente journée et bonne condition d'écoute de nos programmes.
Merci.